Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu clément et miséricordieux. Chers auditeurs, nous vous proposons maintenant le verset 214 de la sainte sourate Al-Baqarah. Notre frère Mouradam vous en donne la lecture chantée. Vous en aurez ensuite la traduction. Ce verset rappelle les épreuves que l'homme a à subir avant d'être sauvé grâce à l'appel du messager.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَ والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه حتى يقول ألا إن نصر الله قريب ألا إن نصر الله قريب صدق الله العلي العظيم.
Pensez-vous vraiment entrer au paradis sans qu'il vous soit arrivé, comme à ceux qui furent avant vous? Rigueur et détresse les avaient touchés, et ils furent secoués jusqu'à ce que le messager, et avec lui, ceux qui avaient cru se fussent écriés. À quand le secours de Dieu? Quoi? Le secours de Dieu n'est-il pas proche vraiment? Thank you.
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Ravi de vous retrouver en ce dimanche 17 avril 2022. Nous allons vous présenter tout de suite le journal suivi d'un commentaire politique. L'Iran conserve les informations tant qu'aucun accord ne sera trouvé. Déclaration du porte-parole de l'OIEA. Vous aurez ensuite la seconde partie de l'émission. Merci de votre écoute. À la une de ce journal, le ministre iranien de l'économie annule son voyage aux États-Unis suite au retard des responsables américains à délivrer des visas à la délégation iranienne pour assister au sommet de printemps de la Banque mondiale. Un autre jour d'atrocité israélienne à Al-Quds occupée, un Palestinien menace de s'immoler alors que les forces du régime tentent d'expulser sa famille de sa maison ancestrale. Et puis l'armée yéménite affirme avoir lancé une opération au plus profond des Émirats arabes unis. C'était les principaux titres que nous allons tout de suite développer dans ce journal. Bienvenue à tous. Les fabricants iraniens de vaccins anti-Covid peuvent exporter les surplus, selon le président Raïsi. Le président de la République islamique d'Iran, Ebrahim Raïsi, a mis l'accent sur la poursuite du plein respect des procédures sanitaires et a rendu hommage à l'action, source de fierté des entreprises iraniennes, dans la production du vaccin Corona, ajoutant « Ces entreprises peuvent exporter les surplus de vaccins tout en prévoyant les réserves nécessaires pour l'avenir du pays et pour la consommation intérieure de la population iranienne. » Le chef du gouvernement iranien a en outre souligné la nécessité pour les pays de coopérer dans la lutte contre le coronavirus et a réaffirmé la volonté de la République islamique de poursuivre ses politiques humanitaires et d'aider les pays dans le besoin dans la région et dans d'autres parties du monde. Le président Raïsi a souligné la nécessité d'aider la Chine à faire face à l'épidémie du Covid-19 dans la situation actuelle et a ajouté « La Chine a beaucoup aidé notre peuple pendant la crise sanitaire du Covid en envoyant des expéditions de vaccins et aujourd'hui nous sommes dans une situation où nous pouvons transférer nos expériences scientifiques pour ce pays, pour aider le peuple et le gouvernement chinois contre l'épidémie. » À la fin de la réunion, le président a salué l'action des entreprises iraniennes dans la production du vaccin anti-Covid et a déclaré « Ces entreprises peuvent exporter des vaccins excédentaires tout en pensant aux réserves nécessaires pour l'avenir. L'Afghanistan est important à cet égard », a-t-il insisté. Le ministre iranien de l'économie annule son voyage aux États-Unis. Suite au retard des responsables américains à délivrer des visas à la délégation iranienne pour assister au sommet de printemps de la Banque mondiale et à reporter la délivrance des visas au jour précédent le voyage, le ministre iranien de l'économie a annulé sa visite aux États-Unis. Le gouvernement américain a manqué à plusieurs reprises à ses engagements envers les institutions internationales telles que la Banque mondiale et le Fonds monétaire international. Et sabote la présence du ministre iranien de l'économie, Ehsan Khandouzi, et de son entourage aux sommets internationaux. Les États-Unis profitent de l'existence de certaines institutions internationales sur leur sol et sabotent la présence des délégations iraniennes en tant que membres fondateurs du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale à la réunion de ces institutions. L'abus des institutions internationales par les États-Unis ne se limite pas à cela, et les États-Unis ont empêché l'Iran d'exercer ses droits dans les institutions internationales en imposant des sanctions illégales. Plus tôt cette année, l'équipe nationale iranienne de lutte libre devait discuter un match amical aux États-Unis à l'invitation officielle de la Fédération américaine de lutte, mais après que le gouvernement américain refusait de délivrer des visas au président de la Fédération iranienne de lutte, Alireza Dabir, et à 5 autres membres de l'équipe iranienne, ils ont dû annuler leur voyage. L'annulation du voyage aux États-Unis est venue comme un signe de protestation contre la partie américaine. Facebook a supprimé la page de la chaîne iranienne iFilm 2. Le vice-président pour le service extérieur de la radiodiffusion iranienne a critiqué la décision de Facebook de supprimer la page de la chaîne iFilm 2. Ahmad Nourouzi a déclaré à propos de la décision de Facebook de supprimer la page de la chaîne iFilm 2, je cite, ces jours-ci, la censure sur Internet est devenue normale. À l'époque où les malfaiteurs ont tout fait pour provoquer des tensions entre les peuples iraniens et afghans, les États-Unis utilisent leur mainmise sur le cyberespace en vue de faire dominer leur version intéressée des faits. Récemment, la page Facebook d'iFilm 2, qui ne diffuse aucun contenu politique, a été supprimée afin que la deuxième chaîne de télévision la plus populaire du peuple afghan ne soit pas autorisée à participer à ce réseau social. Film 2 est une chaîne dédiée d'iFilm pour la diffusion des séries et de films iraniens à un public persanophone non iranien, en particulier en Afghanistan et au Tadjikistan. Cet acte de la société américaine Meta envisageait de limiter l'accès des médias iraniens auprès des internautes afghans. Un autre jour d'atrocité israélienne à Al-Quds occupé, un Palestinien menace de s'immoler alors que les forces du régime tentent d'expulser sa famille de sa maison ancestrale. Des images montrent Mohamed Salia et plusieurs résidents de la maison debout sur le toit portant une cartouche de gaz et d'autres matériaux inflammables. Les forces israéliennes se sont rendues tôt lundi au domicile situé dans le quartier de Sheikh Jarrah pour exécuter un ordre d'expulsion. Sachez d'autre part que les forces israéliennes ont tiré et tué un autre Palestinien suite à une attaque au couteau présumée en Cisjordanie occupée. Une vidéo capturée par un témoin montre un Palestinien allongé sur le sol près d'un arrêt de bus après avoir été abattu. 3 soldats israéliens s'approchent de l'homme tout en pointant leurs armes sur lui. Les médias palestiniens ont identifié la victime comme étant Faleh Moussa Shakir Jaradat d'un village près de la ville d'Al-Khalil. Les musulmans doivent rester unis derrière la cause palestinienne, a réagi Téhéran. Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Saïd Khatibzadeh, a condamné le manque de respect de la mosquée d'Al-Aqsa par le régime sioniste, ajoutant que les musulmans devaient rester unis derrière les idéaux et les causes palestiniennes. Dans le sillage de l'escalade de la tension et de l'agression du régime sioniste, des dizaines de Palestiniens ont été martyrisés et des centaines d'autres blessés depuis le début de ce mois sacré du Ramadan. Profondément indignés par les nouvelles atrocités du régime israélien, nous condamnons fermement la profanation de la mosquée d'Al-Aqsa, a dit le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères. Sachez également que le Hezbollah libanais salue la résistance palestinienne contre la machine terroriste israélienne. Le Hezbollah libanais, réagissant à l'agression du régime sioniste contre la mosquée d'Al-Aqsa, a publié samedi une déclaration où il a fermement condamné l'attaque d'hier vendredi des militaires israéliens contre le lieu saint palestinien et musulman et leur assaut barbare contre les fidèles en plein mois sacré du Ramadan. Enfin, l'armée yéménite affirme avoir lancé une opération au plus profond des Émirats arabes unis. L'annonce intervient après que les Émirats ont signalé deux incendies dans la capitale Abu Dhabi. Des responsables ont déclaré que trois camions citernes avaient explosé près des installations de stockage de la société pétrolière ADNOC, faisant trois morts et six blessés. L'armée yéménite mène régulièrement des attaques de représailles contre l'Arabie saoudite suite à son agression contre le Yémen, mais les attaques contre les Émirats qui combattent aux côtés des Saoudiens ont été rares. Cela survient quelques jours après que des mercenaires soutenus par les Émirats ont rejoint une bataille clé à Ma'arib au Yémen. Fin de ce journal, merci infiniment de votre attention. Dans quelques instants, notre commentaire politique reste avec nous. Merci. L'Iran conserve les informations tant qu'aucun accord ne sera trouvé. Déclaration du porte-parole de l'OIEA. Le porte-parole de l'Organisation iranienne de l'énergie atomique, OIEA, Behrouz Kamalvandi, a déclaré que tant qu'aucun accord n'est conclu, nous conserverons les informations et elles pourraient être supprimées. Le porte-parole de l'OIEA a déclaré dans une interview exclusive accordée à la chaîne Al Alam. Les centrifugeuses ont été déplacées vers un endroit plus sûr. Nous n'avons pas de discussion sur des problèmes techniques pour le moment, bien que certains problèmes mineurs puissent encore être résolus. À propos du transfert de certains équipements nucléaires du complexe de Karaj vers celui de Natanz au centre, Kamalvandi a expliqué que Téhéran a des plans généraux concernant le développement et la production de centrifugeuses. Donc, malheureusement, à cause de l'opération terroriste contre le complexe TSA à Karaj, près de Téhéran, l'Iran a dû intensifier les mesures de sécurité où une grande partie de ses appareils ont été transférés et le reste a été transféré à Natanz et à Isfahan, au centre. En d'autres termes, les centrifugeuses ont été déplacées dans un endroit plus sûr en raison de leur importance et elles fonctionnent toujours. Il a indiqué que l'Agence internationale de l'énergie atomique avait signalé l'affaire en deux étapes et dans deux rapports séparés. La première a été émise au moment du transfert de ces appareils et la seconde à l'issue de la mise en place des caméras et de leur mise en marche. En raison de certaines ambiguïtés qui se sont posées, nous avons fourni des explications selon lesquelles ces mesures prises s'inscrivaient dans le cadre des accords et qu'il y a aussi un contrôle. Mais jusqu'à ce qu'un accord soit conclu, les informations resteront donc conservées chez nous. Ils peuvent être supprimés, a-t-il dit. Monsieur Kamalvandi, concernant la visite de Grossi à Téhéran et des pourparlers de Vienne, a déclaré que le ministère des Affaires étrangères suivait le sujet des pourparlers. À un moment donné des négociations au cours des deux derniers mois, certaines questions ont été soulevées au sujet des garanties. J'ai donc voyagé et nous avons eu des réunions et finalement nous sommes parvenus à un cadre pour résoudre les problèmes rapidement. Et une déclaration a été publiée à cette fin en quatre paragraphes, dont trois ont été mis en œuvre. En fait, nous sommes en train de mettre en œuvre le troisième paragraphe. Après cela, le terrain est prêt pour soumettre un rapport à l'AIOA au mois de juin. En fait, c'est le moment qui a été convenu et nous insistions pour le publier avant le mois de juin et le calendrier du rapport de l'AIOA, a-t-il dit. Nous nous attendons à ce qu'il y ait un accord. Il ne devrait y avoir pratiquement aucune question sur les problèmes soulevés. Nous n'avons pas de problème technique pour le moment, bien qu'il puisse y avoir quelques petits problèmes qui sont en cours de résolution et qu'ils restent en suspense, a-t-il conclu.
Thank you. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans une nouvelle édition du débat en ce samedi 16 avril 2022. Israël poursuit sa campagne de guerre dans la guerre contre la Syrie ces derniers jours. Israël a multiplié ses frappes aériennes contre les différentes provinces en Syrie. Alors la dernière en date, dans la nuit de jeudi à vendredi, Israël a mené une frappe aérienne contre, en effet, la banlieue de Damas. Selon de nombreux analystes, alors au moment où les États-Unis, en effet, projettent de mettre en œuvre un nouveau plan, un nouveau projet en Syrie, et la Russie, en effet, poursuit son opération militaire en Ukraine, Israël chercherait à mettre, en effet, en œuvre un nouveau scénario en Syrie, mais selon de nombreux observateurs, étant donné la capacité des systèmes de défense antiaérien de la Syrie à repousser des agressions israéliennes, alors on assisterait à l'échec de la stratégie israélienne de la guerre dans la guerre. Aujourd'hui, dans le cadre de cette édition du débat, nous allons nous pencher sur les toutes dernières agressions israéliennes en Syrie et, bien entendu, la réaction du front de la résistance à ces frappes israéliennes. Veuillez rester avec nous jusqu'à la fin de cette émission.
Si le raid d'il y a 4 jours des F-16 sionistes sur Maziaf, au nord-ouest de Hama, a été un revers cuisant, le raid de ce jeudi soir contre le rifle ouest de Damas a été une véritable défaite. Appuyé par un Boeing RC-135 et un E-11A, US survolant le long des côtes syriennes, les F-16 sionistes retranchés dans le ciel du nord d'Israël ont tiré quelques missiles interceptés à 90% par un DCA syrien qui est l'une des rares mondes à avoir des radars actifs en permanent avec un taux d'interception de plus de 9%. Les raids aériens sionistes se sont transformés en effet pour la preuve des capacités radar trop avancées de l'armée syrienne et de la faiblesse grandissante de l'aviation sioniste. L'attaque n'a fait que des dégâts minimes. Sur 20 ou 25 frappes seules, 2 détruisent généralement leurs cibles, a déclaré un responsable iranien proche des services de sécurité du pays, cité par le Wall Street Journal. Selon le Wall Street Journal, l'armée israélienne réaffirme avoir effectué plus de 400 frappes aériennes sur la Syrie et dans d'autres parties de l'Asie de l'Ouest depuis 2017 dans le cadre d'une vaste campagne visant l'Iran et ses alliés. D'après les sources israéliennes, les frappes se sont étendues à travers la Syrie et notamment autour de Damas et n'ont touché qu'un nombre modique de cibles au Liban et en Irak. Le dirigeant israélien qualifie la campagne de guerre dans la guerre qui, selon eux, vise à dissuader l'Iran et à affaiblir la capacité de Téhéran à frapper Israël en cas de guerre ouverte entre les deux parties. L'Iran maintient une large influence en Syrie et la conserve auprès des dirigeants du pays et continue de fournir au Hezbollah des systèmes de missiles sophistiqués capables de frapper Israël avec une précision croissante, ont déclaré des analystes militaires cités par le Wall Street Journal. Un conseiller du gouvernement syrien a déclaré que les frappes israéliennes n'avaient pas considérablement miné l'influence militaire de l'Iran en Syrie. Les Iraniens renforcent leur présence à travers le pays. Il est assez difficile de saper leur position, a-t-il dit. À noter que la plupart des frappes israéliennes contre des cibles en Syrie sont interceptées et neutralisées par le système de défense antiaérienne de la Syrie.
Retour au plateau de l'émission du débat. Merci de votre fidélité. Permettez-moi de vous présenter nos invités pour cette émission. Nous sommes en ligne depuis Damas avec Maître Arnaud de Velay, juriste international et analyste politique, et depuis Paris avec Madame Aïssa Midani, analyste franco-syrienne des questions internationales. Madame Midani, bonjour et merci infiniment d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour à vous, à votre équipe, à votre invité.
Madame Midani, alors ces derniers jours, Israël a mené de nouvelles frappes aériennes contre la Syrie, notamment dans les provinces de Hama et de Damas. Étant donné que la plupart des frappes, des missiles en effet, tirés par l'entité israélienne, ont été interceptés, neutralisés par les systèmes de défense antiaérien de la Syrie, l'entité sioniste, qu'est-ce qu'elle chercherait dans cette politique de fuite en avant, dans cette, en effet, impuissance, en d'autres termes, dans cette tentative de sauver la face, alors que aujourd'hui, selon de nombreux analystes, il s'agit d'un constat d'échec total, d'un fiasco aérien pour l'entité d'occupation.
Alors effectivement, l'État en fait sioniste, l'entité sioniste, elle n'arrête pas d'agresser la Syrie en fait et d'essayer de faire des raids aériens contre la Syrie ou des missiles. Mais c'est constant depuis les 10 années de guerre menées contre la Syrie. Cette entité israélienne n'a jamais été loin des hordes terroristes qui ont été dépêchées par tous les pays occidentaux et les pays de l'OTAN pour porter atteinte à la présence syrienne et à l'État syrien. Ce qu'il faut savoir, il y a aussi, ça c'est un premier point, le deuxième point, ils essayent aussi de détecter à chaque fois de la capacité de la Syrie à répondre. Et comme à chaque fois, ils sont déçus et ils essuient une défaite totale, ils essayent aussi de détecter la présence de toutes les défenses aériennes syriennes. Je voudrais rappeler quand même que depuis le début de cette guerre féroce contre la Syrie, un des objectifs importants en fait des terroristes, notamment dans la région sud de la Syrie, était de détruire toutes les défenses aériennes qui étaient sur les limites, sur les frontières du Golan et en Syrie. Donc ça, c'est un objectif qui est systématiquement mis en avant par l'entité sioniste. Et à chaque fois que l'armée syrienne, avance et avance aussi bien sur le plan de la victoire, aussi bien militaire que sur le plan de la victoire aussi politique, Israël apparaît par des bombardements et des agressions contre la Syrie pour remonter le moral des terroristes, pour dire aux terroristes on est là pour vous aider et pour les soutenir. Je voudrais rappeler aussi aujourd'hui pourquoi ces victoires sont importantes du côté le succès de l'ensemble de la des réconciliations, donc nombreux terroristes ou des personnes qui étaient sous l'effet du terrorisme ou des personnes dévoyées qui se battaient aux côtés des terroristes pour des raisons X ou Y, au moins pour des raisons de vie, et qui aujourd'hui se rendent dans le giron de l'État, qui signent aussi une régularisation de leur situation et s'engagent directement dans l'armée arabe syrienne. Donc ce nombre devient de plus en plus important, aussi bien dans le nord de la Syrie, dans le sud de la Syrie, donc dans la région de Dera, et qui était aussi une région d'où ont commencé les troubles et où l'influence israélienne était importante apparemment. Puisqu'ils étaient de connivence avec les terroristes dans le coin. Un dernier point aussi, le fait que aujourd'hui, en fait, dans l'histoire, je dirais, de l'opération militaire russe vis-à-vis de l'Ukraine et la présence russe en Syrie, l'entité sioniste a voulu jouer un peu les 12 yeux pour les Russes en se proposant comme médiateur de entre la Russie et Zelensky, en fait, chose qui n'a pas été acceptée. Là, aujourd'hui, ils affirment leur camp qui est contre la Russie aussi. Je voudrais dire quand même que les positions russes, Ahmemim et Al-Attaqié, n'ont pas échappé non plus aux agressions israéliennes, ce qui a bien rendu effectivement, provoqué la colère de la Russie. Donc, ils sont sur une base d'échec. Excusez-moi, juste un dernier point. Oui. Je voudrais dire aussi, grande agression israélienne contre le peuple palestinien, contre les différentes parties de l'axe de la résistance, aussi bien, alors en Palestine, c'est flagrant, il y a une violence et une inouïe contre qui est déballé contre les Palestiniens qui sont à main nue jusqu'à aujourd'hui, contre les gens qui veulent faire la prière. Et ça, c'est un point très important. Ajouté aussi à l'encerclement ou même à l'étranglement politique au Liban qu'on veut mettre contre le Hezbollah, qui est aussi une pierre angulaire du front de la résistance. Tout ceci se conjugue dans une offensive américano-sioniste, américaine, OTAN et sioniste contre le front de la résistance.
Merci infiniment pour ces éclairages. Restez avec nous. On va tout de suite rejoindre à Damas Maître Arnaud Develet, juriste international et analyste politique. Maître Develet, bonjour. Merci d'être en ligne avec nous.
Oui, bonjour. Merci à vous et bonjour à Madame Midani.
Maître Develet, alors pourquoi l'entité israélienne a mené ces nouvelles frappes au cours des derniers jours contre la Syrie et quel sera l'impact de ces frappes, des frappes israéliennes, sur le cours des événements, notamment la lutte déterminée en effet du gouvernement de Damas contre les terroristes?
La réponse courte, c'est absolument aucun effet, puisque de toute façon, effectivement, comme l'a expliqué Dr Midani, cette stratégie de guerre dans la guerre entre l'entité sioniste et l'Iran au travers du théâtre opération syrien se déroule depuis maintenant plusieurs années. Je pense que le contexte qui portait sur le retrait unilatéral américain de l'accord sur le nucléaire, pour ensuite voir les Américains conditionnaient leur retour à l'accord à l'ouverture d'un nouveau chapitre de négociation sur une thématique visant justement à juguler la puissance balistique de la République islamique d'Iran et aussi, soi-disant, adresser l'influence régionale de l'Iran au travers de ce que les Occidentaux appellent les milices. Tout ça est connecté à cette guerre dans la guerre essentiellement et visiblement, malgré toutes les pressions diplomatiques, économiques et militaires, force est d'avouer que cette stratégie a complètement échoué. Dr Midani l'a souligné, l'entité sioniste est prise à la gorge, de plus en plus étranglée, une absence de profondeur stratégique qui se révèle chaque jour davantage comme étant son point faible, un appareillage politique sur place où visiblement il semblerait que si on s'en tient à la défection de certains membres de la coalition hétéroclite qui a été assemblée il y a maintenant à peine moins d'un an, les carottes sont plus ou moins cuites pour le gouvernement Bennett, on va peut-être se diriger vers des nouvelles élections. La résistance palestinienne a intensifié ses opérations, que maintenant, si je puis dire, l'occupation n'est pas en mesure de garantir la sécurité de ses propres citoyens, où que ce soit, et que dans un contexte comme celui-ci, où, si je peux dire, l'affaire le réchappe, entre guillemets, ces frappes font pour moi office de désarroi, de désespoir, d'absence de cohérence quant à un objectif donné. Et on a encore vu récemment, la semaine dernière, je crois, par l'intermédiaire du bureau de Benny Gantz, où un message a été envoyé à la direction syrienne, lui laissant entendre que s'il lâchait l'Iran, la Ligue arabe ferait les yeux doux et lui déroulerait le tapis rouge. Le problème, c'est que la Ligue arabe, dans l'état actuel des choses, au travers des grandes lignes de ce qu'elle peut représenter, c'est, si je puis dire, un forum qui a validé cette politique de normalisation. Et cette politique de normalisation a montré ses limites, tout simplement. Et à partir de là, la rue palestinienne, la rue arabe, au sens large, en Asie occidentale, n'est pas dupe. Et on comprend très bien que c'est une énième manipulation visant à essayer de normaliser, pour le coup, un régime qui fait fi des droits fondamentaux de gens vivant sur son territoire et qui n'a absolument aucun désir de s'asseoir à une table et de respecter ses engagements d'une manière ou d'une autre. Donc, partant de là, effectivement, et essayant de faire mine de convaincre son opinion publique qu'elle garde la main sur la dynamique des événements, elle s'efforce effectivement de faire feu de tout bois, et ces attaques balistiques en sont le reflet.
Merci pour ces précisions. Restez avec nous, Maître de Velay. Madame Edani, Maître de Velay a, à juste titre d'ailleurs, évoqué ce message lancé par le ministre de la guerre du régime sioniste à la direction syrienne, et soulignant que, comme Maître de Velay l'a rappelé, si la Syrie en effet lâchait l'Iran et l'axe de la résistance de Hezbollah, alors la porte, il pourrait en effet retourner à la Ligue arabe. Est-ce que cette déclaration du ministre de la guerre de l'entité israélienne a d'autre sens qu'une capitulation face à la résistance, au front de la résistance en général, et au gouvernement de Damas?
En fait, l'autre sens, c'est montrer aussi son influence sur les États les États comme l'Arabie Saoudite, le Bahreïn et les États du Golfe, en fait, qui ont normalisé, entre guillemets, leurs rapports avec l'État, l'entité sioniste, pour dire nous pouvons les influencer pour que la Syrie retourne dans la Ligue arabe. Alors, je voudrais quand même à ce point, à ce niveau, ajouter quelque chose. D'abord, la Syrie ne retourne pas à la Ligue arabe, c'est la Ligue arabe qui retournerait à la Syrie, ça d'une part. Et d'autre part, la Ligue arabe n'a absolument aucun intérêt, ni pour la Syrie, ni pour les peuples arabes, si elle est dans une configuration qui appuie les projets israéliens dans la région, qui sont des projets non seulement réfutés, rejetés et, je dirais, crachés par l'ensemble des peuples arabes. Et c'est quelque chose sur lequel, donc, ils ne peuvent pas s'appuyer. Troisième point, ils se targuent de donner des promesses, mais de toute façon, je tiens à dire que ce n'est qu'une répétition, et depuis 2003, rappelons-le, que les Américains le ministre de l'agression, je dirais, américain, qui s'était présenté, Colin Powell à l'époque, qui est venu en Syrie et qui a présenté à Bachar al-Assad les conditions soi-disant qu'ils exigent de la Syrie, qui est de rompre les relations avec avec la République islamique d'Iran, qui est d'arrêter de soutenir la résistance palestinienne, d'arrêter de soutenir la résistance libanaise et d'arrêter donc et de reconnaître l'État d'Israël. À ce moment-là, bien sûr, le nom du président Assad était sonnant et fracassant. Et de toute façon, suite à ça, il y a eu le printemps de Damas, il y a eu l'agression contre le Liban en 2006, il y a eu toutes les agressions, et puis le pire en 2011 et en 2008, l'agression contre Gaza aussi, et 2008, 2012, 2014, et puis dès 2011, le déclenchement des hostilités contre la Syrie et le printemps arabe. Tout ceci a été réduit en miettes et en échec. Et aujourd'hui, la Syrie en sort victorieuse. Le front de la résistance en sort victorieux. Il est plus fort, il est plus implanté.
Merci, Madame Hidali.
Il est plus soutenu par les populations arabes. Donc, en fait, les sionistes se font des chimères. Et puis, pour moi, c'est une manœuvre du gouvernement actuel de cette entité sioniste pour se donner un petit peu de popularité auprès des Israéliens eux-mêmes, qui eux-mêmes, d'ailleurs, ne croient même plus ni à leur gouvernement, ni à leur armée, et qui, aujourd'hui, de plus en plus, partent.
Merci.
Partent de l'entité sioniste.
Merci infiniment. Une toute dernière question à Maître Develle. Maître Develle, alors, au moment où la guerre en Ukraine bat son plein et que les services de renseignement occidentaux parlent d'une réduction du nombre des troupes russes en Syrie et leur remplacement par la résistance, quelle sera la prochaine étape dans la confrontation entre l'entité israélienne et l'axe de la résistance?
Bah, écoutez, pour l'instant, en l'état actuel des choses, je ne pense pas qu'il y aura une évolution majeure, à moins que nous assistions à une escalade radicale, mais l'entité sioniste n'est pas en mesure d'appuyer sur ce bouton. Donc c'est une espèce de situation où les autorités de l'occupation sont en train de prendre conscience lentement mais sûrement, et comme le soulignait Dr Midani, que tous ces plans d'ingénierie sociale à l'échelle régionale, depuis une vingtaine d'années en tout cas, n'ont absolument pas eu l'effet escompté. La Russie, qui plus est, qui aurait peut-être pu à un moment donné avoir une influence, si je puis dire, apaisante, sa confiance a été trahie plusieurs fois, à telle enseigne que lors des opérations de déstabilisation dont on sait qu'elles ont été initié l'été dernier durant justement la campagne électorale présidentielle en Syrie, dans la région du sud, aux frontières avec le Golan occupé, se sont traduits d'un résultat net qui a vu en fait l'accord initial qui portait sur une espèce de zone, une zone tampon de 18 km. Les Russes ont décidé unilatéralement de prendre acte de cette déstabilisation et ces provocations. Afin de permettre à la résistance de justement remplir cette zone tampon de telle sorte que maintenant ils sont à la frontière avec le Golan occupé. Et donc à chaque fois que l'entité sioniste s'efforce ou présume pouvoir influer sur les politiques, que ce soit les politiques de Moscou ou en tout cas des États qui n'auraient pas forcément un intérêt particulier dans la région, réalise en fait exactement le contraire. Et en cela, on a vu le positionnement de la Chine lors de la conférence islamique récemment à Islamabad, qui a pour la première fois explicité que, de par son statut de puissance internationale, il serait certainement judicieux pour elle de s'ingérer justement dans le dossier portant sur le conflit entre l'entité sioniste et le peuple palestinien. Parce que jusqu'à présent, le parrainage américain a montré toutes ses limites. Donc ce sont toutes ces portes qui sont en train de se fermer les unes après les autres.
Merci.
Sur le terrain, avec un étranglement balistique, et sur le plan international, avec des options qui s'amenuisent de mois en mois. ce qui laisse l'entité sioniste maintenant dans une situation extrêmement précaire à long terme.
Maître Arnaud de Velay, juriste international et analyste politique depuis Damas. Madame Aïssa Armidani, analyste franco-syrien des questions internationales depuis Paris. Merci infiniment d'avoir été nos invités pour cette émission. Merci beaucoup. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Excellente journée à toutes et à tous. Au revoir et à très bientôt.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette émission consacrée à l'actualité africaine. L'Iran insiste sur l'élargissement des liens avec l'Afrique du Sud. Les ministres iraniens et sud-africains des affaires étrangères se sont entretenus au téléphone des développements bilatéraux régionaux et internationaux au cours d'une conversation téléphonique. Hossein Amir Abdollahian, ministre iranien des affaires étrangères, a souligné l'importance de l'Afrique dans la politique étrangère de la République islamique d'Iran, notant que l'Iran cherchait sérieusement à élargir ses liens avec les pays africains, en particulier l'Afrique du Sud. Se référant au soutien de l'Iran et de l'Afrique du Sud pour leurs positions respectives dans les organisations internationales, Amir Abdollahian a souligné la poursuite du soutien de la coopération des deux pays dans les forums internationaux. Il a évoqué la question palestinienne et a déclaré à son homologue sud-africain: « Vous avez connu l'apartheid dans votre pays et connaissez le statu quo de l'apartheid contre le peuple palestinien. » La ministre sud-africaine des Relations internationales et de la coopération, Naledi Pandor, a pour sa part apprécié le soutien de l'Iran à l'Afrique du Sud dans les communautés internationales et a déclaré que la Palestine était une amie de l'Afrique du Sud. Elle a invité le président iranien Ebrahim Raisi à se rendre en Afrique du Sud et a exprimé l'espoir que cette visite puisse préparer le terrain pour l'élargissement de bonnes relations entre les deux pays. Le conflit entre la Russie et l'Ukraine ébranle plusieurs pays d'Afrique, notamment ceux qui sont des importateurs nets de produits de base. S'alarme Théodros Mekonnen, économiste au Centre international de croissance, IGC, dans un entretien accordé à l'agence chinoise. À mesure que le conflit s'éternise, dit-il, les pays africains ayant des liens commerciaux avec la Russie et l'Ukraine sont confrontés à des pénuries d'approvisionnement en blé et en engrais. De nombreux pays africains utilisent des engrais azotés pour leur production alimentaire et ils importent environ 70% de ce produit d'Ukraine et de Russie, rappelle Mekonnen. Donc, l'offre étant affectée, ils sont confrontés à une augmentation de leur facture d'importation. Si certains décident de faire de compromis en réduisant les importations d'engrais, alors la production alimentaire diminuera et les prix des aliments augmenteront, avertit l'économiste. Selon les données de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, l'indice des pays de produits alimentaires s'est établi en moyenne à 159,3 points en mars, soit une hausse de 12,6% par rapport à février, où il avait déjà atteint son niveau le plus élevé depuis sa création en 1990. D'après M. Mekonnen, des pays comme le Ghana, l'Éthiopie et le Kenya sont durement touchés par la flambée des prix de l'énergie et des denrées alimentaires. Cette situation a gravement affecté leur déséquilibre extérieur et exacerbé l'inflation dans leur pays. un autre exemple est celui de l'Égypte qui dépend de la Russie pour son blé. Après l'éclatement du conflit entre la Russie et l'Ukraine, ce pays fait face à une hausse des prix du pain, selon l'économiste qui rappelle que la Russie et l'Ukraine représentent ensemble environ 30% des exportations mondiales de blé. L'expert relève que le conflit intervient à un moment critique où de nombreux pays africains luttent encore pour se remettre de la pandémie de nouveau coronavirus et des pressions inflationnistes mondiales. Au Burkina Faso, l'opposition s'allie à la transition contre le terrorisme. Au Burkina Faso, le Congrès pour la démocratie et le progrès a tenu une conférence de presse à son siège à Ouagadougou. Le parti de l'ex-président Blaise Compaoré s'est exprimé en général sur la vie de la nation burkinabé. Dans un communiqué, le CDP choisit de soutenir et d'accompagner le nouveau pouvoir. Notre parti se réjouit de la mise en place de la transition, a lu son président Edie Kombouigo devant les caméras. Sans condamner l'arrivée des militaires, le CDP estime que cette prise de pouvoir du mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration MPSR était justifiée par la lutte contre le terrorisme. Pour ce qui est de la condamnation de Blaise Compaoré à la perpétuité pour son rôle dans l'assassinat de Thomas Sankara, le CDP a refusé de commenter le verdict de la justice. Il est très regrettable que certains citoyens, notamment des avocats de la partie civile, au lendemain de ce verdict, s'arroge le droit d'interdire sous menace le président du Faso et de l'ensemble législatif et de transition de penser à user de leurs prérogatives constitutionnelles pour accorder la grâce présidentielle ou de voter une loi d'amnistie, a regretté le président du CDP. En revanche, il a appelé l'ensemble des filles et des fils du pays à l'apaisement. Le CDP appelle l'ensemble des filles et fils du pays à un apaisement des cœurs et à aller résolument vers une véritable réconciliation nationale pour consolider le vivre ensemble afin de poursuivre la lutte contre la lutte pour le développement, a déclaré le président du parti. Le comité ministériel de l'Union monétaire de l'Afrique centrale, UMAC, a invité les pays membres de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale à accélérer les réformes structurelles prioritaires en vue de renforcer la résilience des économies aux chocs externes, a-t-on appris de sources officielles. Le comité ministériel de l'Union monétaire de l'Afrique centrale, l'une des deux des unions de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, lors d'une session ordinaire tenue dans la métropole économique camerounaise Douala, a encouragé ses 6 États membres, Cameroun, Congo, Gabon, Guinée équatoriale, République centrafricaine et Tchad, à exploiter judicieusement l'opportunité de l'amélioration des termes de l'échange pour favoriser la restauration des marges de manœuvre budgétaire et consolider la soutenabilité externe de la monnaie, selon un communiqué rendu publique vendredi. Le comité ministériel a fait remarquer que la situation sous-régionale demeurait fragile et fortement exposée aux incertitudes économiques et financières à l'échelle mondiale, notamment en lien avec les effets potentiels du conflit entre la Russie et l'Ukraine, les États disposant d'un espace budgétaire étant appelés à prendre des mesures en vue de maintenir le rythme de la reprise qui se met progressivement en place. Quant à la situation financière de la Banque des États de l'Afrique centrale, le comité ministériel de l'Union monétaire de l'Afrique centrale signale un résultat net excédentaire de 49,8% de fin 2022 en once de 60,7% par rapport à l'exercice précédent. Eh bien, chers amis auditeurs, ici touche à sa fin cette émission. Merci infiniment de l'avoir suivi. Merci beaucoup pour votre fidélité à la radio francophone iranienne.
Mm-hmm.